franceinter.fr.
Le 6-9 du week-end. Patricia Martin sur France Inter.
Mais bonjour Alain Marathon.
Mais bonjour Patricia Martin.
Voulez-vous que je vous dise une chose ?
Oui.
Le mancenillier est un bel arbre fruitier.
Je vois que vous le connaissez, vous avez raison, c'est un bel arbre de modeste dimension. Il atteint généralement une dizaine de mètres de hauteur, même si dans la nature, voyez-vous, il est possible d'en apercevoir quelques-uns qui font 20 mètres, ce qui est quand même un très bel arbre. Ses feuilles sont brillantes, son tronc est gris et lisse, et il produit des fruits semblables à de toutes petites pommes vertes.
Sauf qu'on n'en a jamais vu en France, donc voilà, où est-ce qu'on peut en voir ?
Eh bien, principalement en Amérique centrale et Amérique du Sud, et aux Antilles, où il est généralement signalé par un large trait rouge peint sur le tronc. Cette marque, voyez-vous, Patricia Martin, a pour objet d'alerter sa dangerosité aux promeneurs. Ce n'est pas pour rien que les Espagnols l'ont appelé le mancenillier, l'arbre de la mort.
C'est pas un peu exagéré, ça ?
Eh bien, détrompez-vous, le moindre contact avec son latex, s'il y en a dans le bois et dans les feuilles, provoque immédiatement des éruptions cutanées sévères. Et vous ne verrez donc jamais un bûcheron couper cet arbre sans se protéger de la tête aux pieds. Méfiez-vous aussi du pollen quand il y a du vent. Il se colle sur la peau et peut, là encore, être à l'origine d'inflammation.
Donc si vous voulez me compter fleurettes ou me lire des poèmes au pied de cet arbre-là, je vous dirais non.
Ah bah, c'est fortement déconseillé.
Et il est conseillé en revanche de le couper, de le brûler quand on en a dans son jardin.
Eh bien, surtout pas, le simple fait d'être en contact avec la fumée peut là encore provoquer des inflammations oculaires.
Alors, j'imagine que ces fruits ne sont pas comestibles.
Eh bien, ils sentent bon le citron et la pomme, mais ils sont redoutables. Si vous en croquez, votre bouche devient comme un réacteur de centrale nucléaire et en général, fort heureusement, vous recrachez très vite. Mais admettons, vous qui êtes parfois un petit peu entêté, que vous ne teniez pas compte de mes conseils.
Je tiens toujours compte de vos conseils.
Eh bien, voilà ce qui va se produire. Vous allez d'abord être pris de nausées, vomissements et douleurs abdominales.
Bon petit déjeuner à tous nos auditeurs.
Le plus souvent également, toute la cavité buccale s'enflamme très dangereusement. Des œdèmes se forment et peuvent exiger une trachéotomie. L'ingestion peut aussi, bien sûr, provoquer des hémorragies. En l'appelant l'arbre de la mort, les Espagnols n'exagèrent pas.
Bah effectivement, on leur a compris. Fort heureusement, il est toujours possible de profiter de son ombrage pour une bonne sieste.
Et pour en revenir à ce que vous disiez il y a un instant, si je devais sous cet arbre vous compter fleurettes, eh bien avant, je consulterais la météo.
Mais je sais que vous ne me compterez fleurettes sous aucun arbre.
Eh non, vous êtes inaccessible, vous êtes pour moi une étoile. Alors sachez que s'il vient à pleuvoir, c'est joli, non ?
C'est très beau. Oui. Un ver de terre amoureux d'une étoile. Non, vous savez, c'est Victor Hugo qui a dit ça.
C'est très beau. Donc, je disais que s'il venait à pleuvoir, l'eau qui ruisselle n'est plus de l'eau, mais de l'acide. Et là encore, vous êtes bonne pour les urgences. Alors, comme vous pouvez le constater, il n'est pas exagéré de dire que le Guinness il n'est pas exagéré, pardonnez-moi, je suis un petit peu ému par cet arbre assez dangereux, qui est tellement appétissant qu'on ne peut se douter de sa dangerosité. Toujours est-il que le Guinness
comme
des records. Tout à fait. Oh là, oh là. Vous prêchez un convaincu, le Guinness des records l'a donc qualifié à juste titre d'arbre le plus dangereux du monde.
Est-ce que vous voulez connaître la question d'Arnaud ?
Oui, je vous en prie.
Depuis 3 ans, des cuvettes se forment dans le sol du jardin d'Arnaud, comme des nids de poules. La terre est argileuse et se craquelle avec le soleil. Que me conseillez-vous pour tout remettre à niveau afin d'avoir un terrain plat pour y faire une pelouse ? Serait-ce efficace de boucher les trous avec du terreau ou de la terre trouvée dans les champs alentours ?
Vous savez, je n'aime pas tellement l'idée qu'on modifie un sol, pour une raison simple. Quand on le modifie, le sol reprend son apparence naturelle. Si vous mettez par exemple du terreau, que va-t-il se passer ? Eh bien, il ne pourra pas se mélanger durablement avec la terre. Vous allez simplement avoir encore des cuvettes qui ne seront plus remplies d'eau, mais de gadoue. Donc ça n'a pas d'intérêt. Le sol, quand on le change, ensuite il faut constamment l'améliorer, le retourner, le hercer. Donc, c'est pas simple. Non, ce qu'il faut réfléchir, c'est à des plantations qui permettraient peut-être de couvrir cette terre et de faire en sorte que son apparence ne soit pas trop inesthétique. Mais c'est vrai que l'idée de transformer la structure tout petit, voyez-vous, car j'ai été petit, Patricia, vous
l'ignorez. Il y a très longtemps, alors.
J'étais adorable. Eh bien, quand
j'imagine,
j'étais petit.
Vous l'êtes toujours.
Merci. À l'école, j'ai appris ce qu'était le complexe argilo-humique. C'est quelque chose de très complexe qui fait que la terre ressemble à ce qu'elle est. Et il ne suffit pas de mettre un tel ou tel terre pour changer durablement la composition de la terre.
Vous allez vous étouffer. Je subis une invasion de limaces, nous dit Sarah. Je n'ai pas eu de carottes, par exemple, car tous les semis ont été mangés. Mes poules veulent bien manger une ou deux, mais guère plus. Je pratique donc le ramassage. Environ, alors là je me tiens, 300 limaces par heure.
C'est charmant.
Existe-t-il un déséquilibre dans mon biotope et que faire pour y remédier ?
Ah bah, il y a de toute évidence effectivement un déséquilibre. Il aurait fallu que Alain Bougrain soit à nos côtés pour me conseiller en la matière parce que à force d'avoir voulu supprimer les insectes, à force d'avoir tué par les produits les hérissons, à force de s'être débarrassé de tous ces petits mulots et compagnie, eh bien on fait qu'une bestiole, la limace, prolifère et sans mettre de produit, la seule technique technique durable et biologique est le ramassage à la main. Alors on le fait. Les ramasseurs de champignons ne se plaignent pas trop. C'est pas facile ce matin.
Je sais pas, vous êtes couché tard hier.
Non, pas du tout. Mais bon, je suis un peu impressionné aujourd'hui par votre éclat, car vous brillez, je trouve, ce matin. Donc à moins de mettre des produits, on fera donc du ramassage à la main ou on essaiera d'adopter un hérisson.
Et Sarah souhaite adopter un hérisson. C'est tellement beau un hérisson. Sarah souhaiterait aussi savoir quel paillage utiliser pour le potager pour éviter justement que les limaces ne s'y réfugient.
Bah écoutez, là, ça peut être un avantage. Je déconseille souvent le paillage, car je dis que le paillage permet à quantité de petites bestioles comme les mulots de venir sur place sans être vues, dévorer un peu de récolte. L'avantage, effectivement, quand on a beaucoup de limaces, elles vont se mettre sous le paillage et donc pour rechercher la fraîcheur, et elles risquent de se retrouver nez à nez avec quantité de mulots. Donc la bonne vieille paille, celle que l'on trouve facilement dans le commerce, pourrait permettre éventuellement la suppression de tous ces indésirables. Mais ce qu'il faut simplement, s'il y a autant de limaces, c'est les ramasser, les ratisser. C'est pas très joli ce que je veux dire. Peut-être même les aspirer avec la tondeuse, car souvent les tondeuses peuvent aspirer, mais je ne connais pas de méthode propre pour les éliminer.
Le jardin d'Isabelle est envahi de fourmis de toutes sortes. Je jardine bio, nous dit-elle, sans insecticides ni engrais. J'attire les oiseaux avec des nichoirs, de l'eau et l'hiver de la nourriture. Que puis-je utiliser comme répulsif naturel?
Je n'en connais pas vraiment. Certains vont vous dire qu'il suffit de mettre du citron, d'autres du marc de café. Un jardin, ce n'est pas un appartement. Et je vois difficilement comment on peut tenir à distance les bestioles. Non, ce qu'il faut, c'est trouver les fourmilières. J'aime bien l'expression « mettre un coup de pied dans la fourmilière ». Eh bien, chaque fois que vous en trouvez une, vous mettez un coup de pied, vous les dérangez et ils finiront bien par se disperser. Mais vous savez, l'équilibre des animaux est très, très fragile. Il y a les fourmis, on a parlé des limaces. C'est tout un ensemble qui fait que les oiseaux peuvent revenir ou venir, quantité de petits mulots, et quand l'équilibre se fait, l'homme n'a plus à intervenir. On a tellement voulu régenter la nature qu'aujourd'hui on assiste à des déséquilibres préjudiciables et aux hommes et aux bestioles.
Nous sommes envahis depuis quelques années, nous dit Michel, de millions de petits escargots blancs et nous ne savons comment nous en débarrasser. Mais décidément, après les limaces, les escargots. Un de mes lauriers roses a failli en mourir. En désespoir de cause, j'ai essayé les granules, mais ils n'y touchent pas. Il semble qu'il n'y en ait pas dans les vignes autour. Peut-être devrais-je traiter mon jardin comme les vignes.
Non, ce qu'il faut faire déjà, c'est le matin, par journée sèche, arroser le jardin. Généralement, les escargots vont sortir et on les ramassera à la main sans aucune difficulté. Traiter comme les vignes, est-ce vraiment utile d'avoir un jardin pollué? Non, ça n'a aucun intérêt. Les viticulteurs sont des gens que je respecte profondément, même si parfois ils traitent leurs produits, leurs vignes. Eh bien, c'est leur gagne-pain, c'est leur vie. Je ne me permettrai pas de leur jeter la pierre, mais quand on est particulier, de grâce, ayons un jardin propre. Hein, il ne faut pas polluer l'espace que l'on a la chance de pouvoir posséder.
Un conseil de lecture ou de promenade terminer?
Promenade, c'est aujourd'hui et demain la grande fête des plantes, des mureaux. Hein, c'est fleurs en Seine. J'aime bien m'y rendre d'habitude. Je ne pourrais pas m'y rendre malheureusement, mais c'est une très belle manifestation avec mon collègue ami Claude Bureau qui officie régulièrement. Donc c'est fleurs en Seine, c'est au Mureau, c'est aujourd'hui et c'est demain.
Merci Alain Baratan. À propos de demain, on se retrouve.
Et bien avec plaisir.